Donc, qu'est-ce que je viens de dire, chevet?
Asseyez-vous!
On ne bouge pas! S'il y en a un qui se lève, je raconte tout à la presse!
Dieu, qui c'est ce zigoto? Un petit comique, hein? Langage et guignol? Je t'admire, j'adore ton honnêteté. Tu sais que je t'aime bien, tu viens chez moi quand tu veux et tu baisses ma frangine.
Ce jeu, il a commencé avec une jolie boîte et une jolie copine.
Je m'appelle Berlin Noël, j'ai 29 ans, bientôt 32. Je suis député.
You fuck my wife.
What?
You fuck my wife.
Reste toi-même. C'est eux les cons, une vente.
Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'avoir des rencontres.
Oh putain, tu fais super bien le chat.
Merci.
Non mais vraiment, je pense vraiment.
Merci du fond du cœur.
Et c'est pour qui les cafés?
Chut.
Oh là, c'est pas ta bonne, hein.
Ouais, ta gueule.
Ouais, la tienne avant la mienne.
Ouais, ta gueule toi-même. Oh,
ça va trancher, chérie.
Et c'est pour ça que je me permets d'intimer l'ordre à certains salisseurs de mémoire.
Sors-moi de là, quoi. J'en ai plein de cul.
Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes à l'écoute du 99.5 FM, Radio Campus Tours. Et c'est émission plan séquence. Et ce soir, je vais laisser la parole pour présenter cette émission à Susan.
Bonsoir. Comme précisé la semaine dernière, une émission un peu spéciale cette semaine, car en effet la semaine prochaine nous serons en direct du festival Viva il Cinema, donc festival du cinéma italien, et nous ne pourrons pas parler de cette grande date qui est la date du 8 mars, la date de la journée du droit des femmes. Et on s'est dit que, vu les dernières sorties, les dernières polémiques, il était peut-être intéressant de se pencher un petit peu sur les femmes et leur place au cinéma, aussi bien en tant qu'actrice, mais aussi en tant que réalisatrice et donc de faiseuse d'images. Donc pour commencer, peut-être une petite introduction sur une vidéo qui est sortie sur les réseaux il y a environ 3 jours. Donc c'est le court-métrage Be the Ladies They Said, qui a été réalisé par le magazine Girls, 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 qui est un court-métrage présentant Cynthia Nixon, donc une des actrices principales de Desperate Housewives, qui expose toute la pression que les femmes peuvent subir à tout niveau, donc aussi bien sur leur corps, sur leur âge, sur leur niveau social, sur leur carrière, sur ce qu'elles ont envie d'exprimer ou non, et qui est à mon sens un court-métrage assez impactant. Donc il dure 2 minutes 51, je vous invite fortement à le voir, parce que c'est un très beau résumé de tout ce qu'on va évoquer là et de tout ce qui est encore à faire dans la société à ce niveau-là. Voilà. Après, on a peut-être des news de ton côté, Géré, aussi, à transmettre.
Exactement. Alors, samedi 29 février, donc samedi prochain, l'association Kaboom, donc, qui est menée par deux femmes que nous avons donc reçues régulièrement, Élise Loiseau ainsi que Lucie Bourliot, organise au Puzzle Pub, donc près de en centre-ville, une soirée spéciale court-métrage, donc avec une sélection des meilleurs courts-métrages du festival de Clermont-Ferrand. Donc ça se passera au Puzzle Pub en soirée à partir de 19h30. Je ne me souviens plus du prix d'entrée, mais en général c'est assez minime, c'est de l'ordre de 3€. Et voilà, bah rendez-vous nombreux pour cet événement. On les remercie d'ailleurs d'organiser aussi souvent ce genre d'événement en dehors des salles de cinéma, et ça sort un peu des sentiers battus, donc initiative à encourager.
Carrément, oui.
Et pour le programme du coup de cette émission, ce qu'on n'a pas présenté Jean-Pierre, bonsoir Jean-Pierre.
Oh mais écoutez, ne me présentez pas, ce n'est pas la peine.
On ne présente plus.
Ce n'est pas la peine. Non, mais je suis super content qu'on fasse cette émission.
Et on va, comme tu l'as dit Susan, essayer de parler en tout cas des cinéastes de nous qui nous ont marqués, qu'on a envie aussi de mettre en lumière parce que pas forcément ultra connus du grand public, et nous qu'on aime beaucoup. Toi tu vas nous parler de qui ce soir, Jean-Pierre ?
Je vais vous parler d'Alice Guy Blacher, que les historiens du cinéma ont essayé, enfin même réussi à effacer complètement l'histoire du cinéma. D'ailleurs je ne suis pas sûr que vous sachiez qui c'est, bon, on va vous en parler un petit peu. Et puis je vais vous parler aussi, alors elle n'est pas réalisatrice, mais elle est auteure, elle s'appelle Iris Bray, elle vient de sortir un super bouquin sur ce thème-là, Le regard féminin, une révolution à l'écran. Je vous en parlerai un petit peu parce que c'est vraiment un très très beau livre. Je crois que c'est tout. On parlera d'Agnès Varda aussi, je crois.
Ouais, en fin d'émission, parce qu'en plus, le festival Brice Mandel au mois de mars, qui est sur la création féminine, dans, voilà, aussi bien musical, art plastique, enfin voilà, c'est un festival très, très ample. Et le focus cinéma de cette année, c'est voilà, hommage à Agnès Varda. Et je vous parlerai, moi, d'une vidéaste qui s'appelait Carole Roussopoulos, qui a révolutionné à sa manière la caméra vidéo, une des premières femmes à avoir eu d'ailleurs une caméra vidéo en France dans les années 70 avec Jean-Luc Godard, ils étaient deux. Et voilà, que j'aime beaucoup. Et puis Agnès Varda. Et toi, du coup, Susan, tu nous parleras d'un film documentaire que tu as vu et qui est quand même le point de départ de cette émission, d'ailleurs.
Oui, voilà. Alors, en fait, je vais peut-être commencer par ça, du coup.
Ou sinon, on commence par la fameuse interview.
Ah oui, exact.
Une info qui est tombée la semaine dernière et en plus qui fera suite à la chronique de Jean-Pierre sur Alice Guy. Le prix Alice Guy a été remis à un film qu'on avait chroniqué ici.
Alors, le prix Alice Guy, c'est un prix qui est décerné chaque année à une réalisatrice. C'est important de le lire quand même.
Voilà. Et qui est voté par tout un collège. On peut voter pour le prix Alice Guy. Moi, j'ai voté pour le prix.
Un prix qui existe depuis 2018. Hein.
Ouais, c'est tout récent.
Et je crois que c'est sur le site cinewoman.fr, il me semble.
Et le film, du coup, Papicha, de Moundia Medour, qui était venu à Tours présenter son film et on l'avait interviewé, donc ça dure une dizaine de minutes. En plus, le film a dû sortir en DVD.
Ça ne doit pas tarder.
Et voilà, donc Moundia Medour sur Radio Campus Tours.
C'est un film qui est inspiré de mon propre vécu, puisque moi j'étais étudiante dans les années 90, j'étais étudiante en journalisme et j'ai vécu dans un campus universitaire similaire à celui qui est décrit dans le film. Et donc il y avait une base vraiment historique, une base vécue que j'ai voulu après transmettre à travers cette fiction. Bien évidemment, le casting a pris beaucoup de temps. Il faut savoir qu'en Algérie, il n'y a pas d'agence de casting. Très peu de comédiens font du cinéma, puisqu'à l'époque nous avions 400 salles de cinéma et à cause de la guerre civil, aujourd'hui, nous avons uniquement 5 salles de cinéma. Donc, si vous voulez, le cinéma n'est pas une activité très commune. Et le travail de casting a été très laborieux. Donc, le casting s'est fait à Paris, mais à Alger aussi. Et ce qui s'est réellement passé avec notamment Lina Koudri, le rôle principal, l'héroïne de ce film, c'est 4 ans de préparation. 4 ans de préparation, durant lesquels donc, Lina a pris des cours de couture, a pris des cours de dessin. Donc, on a travaillé énormément sur pas mal de recherches au niveau du stylisme, de la haute couture, mais aussi au niveau des dialogues, au niveau des détails. Et aujourd'hui, je crois qu'on le ressent, à l'image. Une fois que Lina Koudri, donc notre héroïne, était déterminée, il fallait créer le noyau autour d'elle. Donc cette espèce de microcosme avec toutes ces femmes aux personnalités différentes. Donc arrive le rôle de Wessila, qui est une youtubeuse, puisqu'il y a très peu de jeunes comédiennes. Donc c'est une influenceuse, hein, youtubeuse que j'ai tout simplement recrutée et castée sur les réseaux sociaux, hein, sur Facebook, Instagram. Par la suite, on a le rôle donc de Samira, la fille voilée. Elle, c'est une slameuse, c'est une chanteuse qui interprète et qui chante en Algérie. Et donc, c'est son vrai premier rôle au cinéma. Puis vous avez Kaina, celle qui rêve d'exil. Alors Kaina, c'est une docteure, elle est docteure en biologie. Donc elle n'est pas du tout comédienne. Et ce qui m'intéressait, c'était toute cette diversité, complexité de caractère. Et une fois que j'avais toutes ces magnifiques comédiennes, on a trouvé le lieu du tournage et je leur ai demandé d'habiter ensemble pour créer de la complicité, de l'amitié, que ça transpire vraiment une vraie cohabitation depuis des mois.
Ça se ressent aussi à l'écran, ça passe aussi par votre mise en scène, du coup, des actrices et beaucoup de gros plans. Du coup, comment vous avez travaillé avec votre chef opérateur qui s'appelle Léo Lefebvre pour arriver à ça? Parce qu'on est toujours du point de vue quand même de Najma, mais on est dans cette histoire d'amitié, parce que c'est aussi une histoire d'amitié, votre film. Mais comment vous avez recréé ça avec votre chef opérateur?
En effet, comme je disais, Papicha, c'est 15 ans de maturation, 5 ans d'écriture, 5 semaines de tournage. Il faut savoir que 5 semaines de tournage, c'est très court pour un film d'époque, dans un pays où l'infrastructure n'est pas réellement démocratisée. Si vous voulez, un énorme travail a été fait avec les comédiens, mais aussi avec l'équipe technique. Avec Léo Lefebvre, qui est un excellent chef opérateur, qui est très jeune, pour qui c'est réellement son premier long métrage. Il en a fait d'autres auparavant, mais celui-ci, j'ai l'impression que c'était le plus sportif, puisque c'était 5 semaines, 6 jours sur 7. Il y a eu un vrai travail de préparation, de découpage technique, car nous savions qu'on avait un délai très court. Bien évidemment, vous l'avez souligné, le point de vue est primordial. Moi, je viens du documentaire et le point de vue, pour moi, c'est la singularité de l'auteur. En l'occurrence, pour moi, tout part du point de vue de Nejma. Nejma, c'est notre héroïne et donc il était hors de question qu'on ne soit pas de son point de vue, même lorsque les choses sont en arrière-plan, on est toujours de son point de vue à elle. Et pour recréer ce côté immersif aussi, moi j'ai privilégié les plans très serrés, plans où on ressent davantage la respiration des filles, la peau, la féminité, la sensualité, mais c'est dans un but d'immersion, pour qu'on puisse être dans cette espèce de microcosme féminin avec ces femmes-là. Et puis vient un autre travail de montage, puisque le montage a été très décisif aussi, c'est notre écriture du scénario. Et là, on a continué à travailler sur ce rythme un peu effréné qui est représentatif pour moi de la pulsion de vie, puisque c'est un film sur la pulsion de vie. Et donc, avec le chef opérateur et le monteur, on a prolongé ce côté immersif en ayant un montage très vif, très viscéral, avec des plans, si vous voulez, plutôt abrupts, coupés de façon très abrupte, pour pouvoir ressentir ce côté d'urgence de vie et de pulsion de vie, en tout cas.
Dans ce film, vous explorez une multitude de thématiques et votre point de départ, c'est justement le vêtement. Comment vous en êtes venu à cette idée ?
Alors, le vêtement a une grande symbolique dans le film. Le vêtement, c'est aussi le tissu. C'est aussi le tissu social. C'est le tissu de la société algérienne. Pour moi, le défilé de mode, c'est un élément très important de la culture algérienne et puis un défi à cette époque-là. À une époque où on veut couvrir le corps des femmes, à une époque où la propagande veut que les femmes soient couvertes de la tête aux pieds, Nejma, elle, arrive avec cette idée pas forcément révolutionnaire, puisqu'elle utilisait un tissu ancestral symbolique qu'elle recostumise, on va dire, et qu'elle retransforme en quelque chose de beaucoup plus moderne. Donc, le vêtement arrive en opposition avec le côté propagande envers les femmes. Et il y a bien évidemment le côté féminité, sensualité, mais pour moi, ce qui était important, c'était que c'était un personnage qui partait d'un élément traditionnel, ancestral, pour le moderniser et le rendre beaucoup plus accessible. Et c'est aussi quelqu'un qui refuse pas cette tradition, qui connaît parfaitement la religion musulmane, qui veut pas quitter le pays. Donc il y a vraiment cette attache assez forte à la terre, à ce voile qui est ancestral et qui est typiquement algérien.
Il y a aussi cette culture du football aussi en arrière-plan. Alors du coup, en plus cette année, l'Algérie a gagné la CAN, c'est encore un écho. Mais il y a cette volonté-là de montrer ça dans votre film aussi, même si c'est un tout petit peu. Et puis cette culture musicale aussi qu'on voit, alors avec des musiques du coup qui viennent de l'Europe, voire du monde occidental en tout cas, avec Benny B et Rock Voisine pour citer que. Mais ça, c'était aussi votre volonté de montrer ça dans votre film.
Alors, ce qui étonne beaucoup les gens, c'est... alors, on pose souvent la question, mais c'était comme ça en Algérie. Oui, c'était comme ça. C'est-à-dire, effectivement, dans les années 90, moi, j'avais 18 ans. Et effectivement, on écoutait Technotronic, on écoutait les New Kids on the Block, on écoutait Rock Voisine, on écoutait Benny B. Et c'est vrai que c'est une culture qui est authentique. Enfin, c'est quelque chose qui est réel et authentique. Et moi, je suis partie, effectivement, de ce vécu-là pour essayer de le transmettre. Et c'était une jeunesse, effectivement, nous étions une jeunesse qui nous identifions à n'importe quelle autre jeunesse mondiale. Moi, il y avait un aspect aussi pop que je voulais donner, un peu électro, d'où l'intervention de Rob, puisque Rob, du groupe Phoenix, en fait, a composé la musique du film, et c'était dans ce but-là. C'est dans le but de moderniser un peu le récit, de lui donner une touche un peu pop et un peu électro. On a d'autres chants algérois, typiquement algérois, qui sont là et qui sont présents dans tous les foyers en Algérie, qui est le chabi ou le raï. Et on a aussi l'intervention donc des filles qui chantent. Donc voilà, il y a une multiculturalité comme ça, musicale aussi, qui était intéressante à amener.
C'est un film sur la transmission aussi de cette histoire-là des années 90, enfin, vraiment un film d'époque, on pourrait dire. Et ouais, vous parliez de cette jeunesse qui est dans la rue du coup, en Algérie. Comment cette histoire elle est enseignée en Algérie, cette décennie noire ?
C'est une très bonne question. Il faut savoir qu'en fait, 10 ans de guerre civile, 150 000 morts, c'est quelque chose d'assez traumatisant. L'ancienne génération, on parle très peu. L'ancienne, c'est-à-dire celle qui a 40 ans aujourd'hui, qui a vécu cette période et qui n'arrive toujours pas à prendre le recul nécessaire pour cicatriser. Oui, c'est une histoire qui est récente. Je pense que le temps pourra effectivement aider et panser les blessures, mais elle est très peu enseignée. Elle est enseignée souvent par des documentaires, des choses un peu rébarbatives comme ça. Et je sais que les gens ne sont pas prêts encore. Les gens ne sont pas prêts à en parler. Et moi, c'est pour ça qu'il m'a fallu 15 ans, puisque vous parliez de transmission. J'avais envie de transmettre cette histoire, mais sans pathos, avec le recul, avec bienveillance. Et ça, c'est le temps.
Vous avez fait un film qui est très riche, très dense, où on explore aussi bien les aspirations de la jeunesse algérienne que la politique, le féminisme, une dimension historique aussi. Comment vous y êtes pris pour gérer l'équilibre de toutes ces thématiques ?
C'est la sincérité. C'est en fait, il y a une base bien évidemment historique puisque moi j'ai une formation de documentariste. J'ai fait quelques documentaires. J'ai fait une école de documentaire à la FEMIS. J'ai fait pas mal de reportages et donc là, si vous voulez, la base était plutôt documentaire. Donc j'avais vraiment une trame historique, politique, véridique qui était réellement là. Ce qui m'intéressait, c'était de montrer comment ces femmes réussissaient. Comment ces femmes se battaient pour atteindre des objectifs et des rêves dans une société en pleine guerre civile. Donc la trame de la guerre civile, le contexte en tout cas politico-social était là, était ancré. Et à partir de là, ce qui m'intéressait, c'était le point de vue de l'auteur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on raconte ? On raconte l'histoire d'une jeune femme qui se bat pour son émancipation à travers un défilé de mode. Et donc après, c'est beaucoup de travail. Je ne vais pas vous livrer toutes les ficelles, voilà, il y a une base documentaire, il y a ce personnage, et puis on en enrichi au fur et à mesure ce scénario avec des recherches, avec des inspirations, avec des connaissances qu'on connaît, avec des gens qu'on côtoie. Et on enrichit comme ça la complexité des personnages. Puis après, on travaille avec les comédiens, on fait des répétitions, on rajoute, on supprime, on travaille avec des coachs, on improvise sur le tournage, on modifie les dialogues, on améliore l'équilibre entre les filles pour créer un noyau et pour créer cette complexité qui est de nature humaine finalement, puisqu'on n'est pas tous gentils ou méchants, donc il fallait créer cette complexité. Et après, c'est un travail d'équipe. C'est le chef opérateur, effectivement, Léo Lefebvre, a fait un travail absolument fantastique. Le monteur, Damien Cailleux, est arrivé avec sa façon très précise, et c'est pour cela que j'ai fait appel à lui de monter. Et Rob, pour la musique, c'était pareil. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. On ne fait pas un film seul. Hein. Et c'est, je pense, la richesse, elle vient de là.
Merci beaucoup.
Merci.
Boulot, tu marches seul. À la hauteur du H&M. Y'a un type qui gueule. Hey, salut, bonne meuf, t'es vraiment très charmante. Tu sais, je te mangerai pour le 4h. T'es si appétissante, je te ferai pas la bise, mais si tu veux, on peut baiser. Moi, les petites meufs comme toi, j'en ferai qu'une bouchée. Ben pourquoi tu marches plus vite? Je t'ai pas agressé, je t'ai même fait des compliments. Tu pourrais au moins t'arrêter. Comment ça, t'as pas le temps? Et t'es pas célibataire, tu sais. Moi, je suis pas jaloux, viens dans mon lit, ça va te plaire. S'il faut arrêter de te plaindre, là, tu l'as bien cherché. T'as une jupe tellement courte, même pas besoin de la soulever. Les filles comme toi, c'est dangereux. Pire que le mal incarné. Et c'est moi que l'on accuse de me comporter en chimpanzé. Souffle, serre les dents. Comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente. Marche sur le trottoir d'à côté. T'es une pouf, c'est devenu courant. De longtemps, trois fois par journée. T'as un hume, peut devenir violent. Si tu donnes pas le vrai, bateau fille. T'es au boulot dans la réserve, tout le monde est parti manger. Le patron t'appelle dans son bureau. Deux minutes pour discuter. Salut Caro, aujourd'hui t'es ravissante. J'aimerais t'inviter à dîner un soir où ma femme est absente. Ouais, je sais que t'as un mec, mais ça c'est pas gênant. Ton joli décolleté me dit que t'es plutôt partante. On pourrait faire ça ici. Tout le monde est parti, ça fait longtemps qu'on se connaît. Tu vas quand même pas refuser. Façon, si tu dis non, moi j'entendrai un oui. Tu diras que je suis con, je plaiderai ton hystérie. Tu serais pas la première à passer sous mon bureau. Les filles comme toi font moins les fières quand elles veulent garder leur boulot. Alors maintenant tu vas te taire, t'en diras pas un mot. Si tu veux garder ton salaire pour nourrir tes marmots. Souffle, serre les dents comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente, marche dans le couloir d'à côté. T'es une pouffe, c'est devenu courant de l'entendre trois fois par journée. Un gentil peut devenir méchant. Faut pas croire au Disney. Bats-toi fille. T'es enfin chez toi, tu te poses sur le canapé, t'allumes l'ordi, t'as un message instantané. Hey, salut l'ami, t'es vraiment très sexy, on pourrait faire connaissance, je cherche un plan pour la nuit. Quand j'ai vu ton profil, je suis tombé direct amoureux. Du coup, je t'envoie une toffe de moi, ma tub et un cœur bleu. Ce que j'ai le plus aimé chez toi, c'est ton regard de chienne qui attendrait de bouffer depuis au moins une semaine. Je suis sûre que t'es du genre à dîner étoilé. Mais moi, je paierai même pas pour des nems à volonté. Parce que t'en vaut pas la peine, de toute façon, t'es comme les autres. J'ai vu que t'avais lu, mais bien sûr, tu fais la morte. Parce que tu crois au-dessus, tu t'es pris pour Rihanna. Quand je serai en bas dans ta rue, on verra ce que tu feras. Souffle, serre les dents, comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente, marche dans le couloir d'à côté. T'es une pouffe, c'est devenu courant de l'entendre trois fois par journée. Un gentil peut devenir méchant. Faut pas croire au Disney. Bats-toi fille.
Alors, vous venez d'entendre SLT, le titre de Suzanne qui vient de remporter une victoire de la musique et qui sera à Ballon-Miré à l'occasion de Brice Mandel, donc un festival tourné vers les créations et les artistes féminines.
Et c'est complet.
Et c'est complet, et c'est totalement complet. Donc on vous fait pas de la pub, on le faisait juste passer ce son parce qu'il était très, très comment dire, en cohérence avec notre thématique et avec tous les acteurs que ça implique. Donc voilà, donc, on a fait un petit coup de suspense tout à l'heure. Donc en fait, la source de cette émission spéciale dédiée aux droits des femmes et surtout donc aux femmes dans le milieu du cinéma, il vient en fait d'un film que j'ai vu, donc un film documentaire qui va sortir le 4 mars, qui est réalisé par Anastasia Mikova et Yann Arthus Bertrand, qui s'appelle Woman et qui fait plus ou moins suite à leur projet Human qu'ils avaient tourné donc ensemble. Mais là, on est plus sur un film vraiment réalisé par Anastasia Mikova et secondé par Yann Arthus Bertrand. Mais c'est vraiment une création donc de Anastasia. Comment expliquer ce projet-là ? En fait, en tournant Human, elle s'est rendue compte que des femmes avaient besoin de parler de certains sujets, de sujets universels, peu importe le territoire sur lequel ils se trouvaient. Et elle a eu envie de donner la parole à ces femmes qui osaient moins que les hommes s'afficher devant une caméra et dire les choses. Donc, ils ont traversé à peu près 50 pays. Ils ont rencontré à peu près 2000 femmes, voire même un peu plus, pour obtenir finalement 4000 heures de rush, de discussion avec ces femmes sur des thématiques en fait propres aux femmes à travers le monde, donc que ce soit la maternité, que ce soit le corps, la sexualité, l'adolescence, la sexualisation de leur corps en tant qu'objet, le mariage, toutes ces thématiques qui sont finalement universelles, mais aussi sur quelques sujets spécifiques, et notamment sur le viol de guerre et l'excision. Donc c'est un très très gros projet qui a pour vocation de montrer tout un panel de femmes sans prendre en compte le contexte. C'est-à-dire que donc Anastasia Mikova avait vraiment la volonté d'épurer son film de tout contexte, de toute mise en contexte, pour qu'on puisse vraiment voir la femme en tant que personne et pas en tant qu'objet social intégré dans une société qui fonctionne d'une certaine manière, et vraiment se rendre compte qu'il y a une cohérence de discours. parce que aussi bien des jeunes femmes françaises de 20 ans vont avoir une vision sur la maternité qui est de dire bah voilà, j'ai un corps qui finalement n'est voué qu'à ça, et quand je nie ce rôle qui m'est assigné normalement parce que je suis définie comme femme, ça me pose problème. Mais au même titre que des femmes par exemple ougandaises vont parler de cette obligation à la naissance comme de quelque chose qu'elles n'ont absolument pas voulu et absolument pas désiré, qui leur est imposé. Donc on a vraiment tout un panel de femmes de tous les âges, de toutes les générations, de tous les horizons en fait, qui permet de se rendre compte d'à quel point il y a un sujet là à traiter et il y a quelque chose à vraiment débloquer. Donc ce projet là il est long, de 4 années de travail à peu de choses près. Il a donc commencé avant la polémique MeToo et l'affaire Weinstein, donc là on est vraiment 2 ans avant. Et en fait, elle expliquait donc pendant l'avant-première qui a eu lieu il y a maintenant une semaine, que c'était dans l'air en fait pour elle. Il y avait ce sentiment que les femmes, elles étaient déjà prêtes à parler et qu'il fallait absolument un déclencheur pour qu'elles puissent juste se libérer et que ça se déferle comme une vague en fait. Donc elle explique que finalement, quand elle a rencontré sur le tournage de Human toutes les personnes qu'ils ont interviewées, les femmes étaient beaucoup plus méfiantes et beaucoup plus... distante vis-à-vis de la caméra que les hommes, qui eux avaient tendance à vraiment tout de suite se livrer, à raconter leur vie sans aucun problème, alors que les femmes, une fois devant seulement, elles arrivaient à littéralement se libérer et à parler de tout ce qui pouvait les toucher. Donc elle a creusé ce sujet-là, elle a essayé de continuer et de vraiment faire en sorte que la parole prime sur le contexte, pour encore une fois une volonté d'universalité. Donc elle explique qu'elle a voulu chercher une vérité brute qui pouvait rejoindre ces femmes et qui pouvait leur permettre de se faire entendre. Et il y a 2 niveaux en fait sur lesquels, selon elle, il faut agir vis-à-vis de tous ces discours. C'est un, la tradition, puisqu'il y a des illégalités et des légalités, mais aussi se rendre compte que, par exemple, l'excision, c'est une torture, en fait, et que c'est un crime sur un être humain, et que dans certaines sociétés, il serait temps que ça soit aboli, ce genre de pratique. Mais de même, elle parle du côté législatif, qui explique que, par exemple, pour protéger la femme face à un violeur, bah, il y a un moment donné où il faut mettre des choses en place. Là où même, par exemple, encore en France, aujourd'hui, il y a une proportion d'agresseurs qui sont incarcérés et donc soumis à un procès qui est infime par rapport à tout ce qui peut se passer. Bon, pour la petite anecdote, je pense que je vais la raconter parce que voilà, je l'ai raconté juste avant hors micro. Il y a à peu près, pour vous donner un peu l'ampleur, parce que des fois on se rend pas vraiment compte de ce que ça peut donner, il y a à peu près 6 jours, un truc comme ça, une semaine, je rentrais de chez mon copain jusqu'à chez moi, il y a 500 mètres à faire. En 500 mètres, j'ai croisé deux personnes, deux hommes en l'occurrence, qui n'étaient pas du tout, qui m'ont interpellé pour me dire bonsoir. J'ai pas répondu parce que j'avais pas que ça à faire et j'ai voulu rentrer chez moi. Et en fait, parce que je n'ai pas répondu bonsoir, qu'ils ont insisté et que je n'ai toujours pas répondu, je me suis fait insulter en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui est une réalité qu'il faut vraiment prendre en compte. Et il faut bien se dire qu'on est ici dans un pays occidentalisé avec une législation qui est censée déjà être avancée. Ce qui n'est en fait pas du tout le cas. Et ce qui est déjà gravissime. Donc ça, c'est des témoignages que vous entendrez dans ce film et qui vont potentiellement vous faire... un peu cogiter, ou en tout cas vous bousculer. Moi je sais que je suis allée voir la séance avec un ami masculin en l'occurrence, et qui lui a essayé vraiment de s'ouvrir à toutes ces questions-là et d'y faire très attention, et qui vraiment a même une vocation des fois à être plus militant que certaines femmes, et qui devant certaines scènes où les femmes parlent de ce que c'est vraiment que l'excision était horrifiée. Là où moi j'avais un mouvement de recul, certes, parce que je sais ce que ça peut potentiellement représenter et que voilà, c'est des choses que j'entends souvent, de parler de ce genre de sujet, et lui était horrifié alors qu'il est censé être au courant. Donc c'est un film qui est percutant parce qu'il parle de choses brutes, et c'est ce qu'elle expliquait. Il n'y a pas de mauvaise façon de parler de sa situation de femme ou de ce que c'est qu'être une femme aujourd'hui, dans les bons ou les mauvais côtés d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des moments heureux, hein, je vous rassure, dans ce film là mais il y a vraiment juste une parole, point barre, pas une parole lissée. Et il y a d'ailleurs une femme sur la fin du long métrage qui dit: mais pourquoi ce serait à moi de rectifier mon discours? Pourquoi ce serait à moi de faire en sorte que ce soit audible pour vos oreilles? Pourquoi ce serait à moi de faire attention alors que c'est moi qui ai subi et c'est moi qui dois encaisser les conséquences? Et je trouve que c'est assez juste. Donc on se retrouve en fait face à un film qui est fait pour qu'on se rende compte que les femmes qui ont pu avoir des problèmes, et qui même sont juste des femmes et qui rencontrent des problématiques de femmes, ne sont pas seules, qu'on est beaucoup, qu'il y a énormément de choses à mettre en place et qui ensemble peuvent être poussées vraiment vers quelque chose de meilleur en fait. Donc le corps de la femme finalement c'est le sujet central de ce film, c'est comment il peut passer d'enfant à personnalité sexuée, puis à mère, puis à femme âgée, comment on peut passer du corps au plaisir mais aussi au danger par le biais de cette incarnation physique en fait, et c'est la question principale que se pose la réalisatrice, c'est pourquoi le corps d'une femme pose autant de problèmes. Donc c'est un vrai documentaire réellement engagé sur la question. Là où je vous disais, par exemple, il y a deux semaines, je parlais du film Scandale qui se revendique être le premier film de l'ère post-MeToo, c'est des blagues. Allez voir ce documentaire, parce que ce documentaire-là est vraiment un film comme on en a besoin par rapport à cette problématique et à ces questionnements. Et j'ajouterais même que c'est un projet qui est extrêmement important parce que le film a été intégralement mécéné dans son tournage. Il y a d'autres projets qui vont en suivre, notamment une exposition, un livre et puis aussi des séances. Ils cherchent à en faire en fait un programme éducatif aussi. Donc c'est un projet qui a totalement été mécéné. Donc tout, absolument tous les bénéfices récoltés avec ces séances de cinéma seront en fait reversés à l'association que la réalisatrice a créée exprès pour ce film, qui s'appelle Woman entre parenthèses S, qui est en fait une association qui vise à former à travers le monde les femmes au métier des médias pour qu'elles puissent elles-mêmes ensuite porter leur propre voix. Parce qu'on va en parler, du coup, c'est la thématique, et c'est pour ça qu'on a découlé de ce film-là pour créer cette émission aujourd'hui, c'est que bah, y a peu de femmes qui parlent, qui disent les choses, qui les filment, qui les montrent. Et cette association est d'ailleurs importante parce qu'elle permet ça à travers le monde. Et à l'heure actuelle, il me semble qu'ils ont déjà 2 à 3 projets de long métrage en cours par le biais de cette formation. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller vous renseigner plus sur le film, aussi bien sur Instagram que sur Facebook ou sur leur site internet. Donc c'est Woman, donc au singulier, le film, aussi bien sur... alors Instagram, c'est Woman the Movie, et sur internet et Facebook, c'est Woman le film. Vous aurez toutes les informations. Alors, juste pour la petite précision, il y a eu 2000 témoignages à peu près, à peu de choses qui ont été recueillis. Bien sûr, vous n'aurez pas 2000 témoignages dans le film, puisque le film dure un peu plus de 2 heures, c'est juste impossible. Donc, il y a une centaine de témoignages qu'on retrouve dans le film. Mais par contre, sur le site, vous verrez régulièrement les images des femmes présentées changer, avec des phrases qui leur sont assignées. Donc voilà, c'est des très courts extraits, mais qui montrent que ouais, il y a beaucoup beaucoup de personnes concernées et que aucune parole n'est oubliée en fait. Voilà. Donc c'était le point de départ de cette émission. Je vous invite fortement à aller le voir. Il sort le 4 mars. Allez-y avec vos compagnons, avec vos compagnes. Allez-y avec vos amis. Allez-y avec vos enfants. Prenez le temps vraiment de déconstruire toutes ces questions et d'en parler autour de vous et avec les personnes à qui vous irez voir ce film. Parce que ça peut être vraiment important et changer beaucoup de choses.
Quand tu parles d'enfants, tu dis à partir de quel âge du coup ?
Pour les enfants, alors le problème se pose sur les 2 témoignages qui parlent de l'excision vraiment frontalement. Je dirais dans l'âge de l'adolescence, ouais, je dirais. Parce que trop jeune, ça risque d'être difficile à expliquer. Mais à l'adolescence, je pense que ça va être vraiment intéressant de discuter de tout ça, aussi bien avec vos garçons qu'avec vos filles. Parce qu'on l'oublie souvent, mais c'est pas aux filles de faire attention, c'est aussi aux garçons de s'éduquer autrement. Donc voilà, ça peut être intéressant à l'adolescence justement, d'où le projet éducatif d'ailleurs.
J'entends le film comme comme un outil là en fait.
Totalement,
un
c'est totalement un
plus
outil.
Plus qu'un film de cinéma là pour le coup.
Là c'est effectivement devenu un outil en fait de revendication, d'explication aussi. Et c'était ça en fait. Là pour le coup on est vraiment face à bah, justement ça, à une vérité brute qui est sortie, qui s'est enfin libérée et qui a un moyen d'être vue par beaucoup en fait. Donc c'est pour ça que c'est important et ça peut vraiment... Enfin je pense, voilà, ça va peut-être lancer un petit débat, mais je pense que la question du féminisme aujourd'hui, c'est pas tant de juste parler, c'est de parler et d'expliquer et de déconstruire. Alors c'est extrême, là ce que je dis là, s'il y a des militants parmi nos auditeurs, c'est extrêmement éreintant de faire de la pédagogie quand on est concerné par ces choses-là, parce que ça demande à se justifier en permanence. Et c'est pas non plus le but. Mais là, ici, on a un outil qui est neutre, dans le sens où c'est pas une personne qui porte son histoire. Et ça peut être vraiment important d'en parler et de l'utiliser comme un outil, effectivement. Voilà. Et on va enchaîner, du coup, je pense, avec Jean-Pierre.
Ouais.
Avec tes petits retours à toi sur ce thème-là.
Oui, non, mais retournant, moi je pense qu'effectivement le film a un intérêt plus pédagogique que cinématographique parce qu'il va toucher finalement au cinéma que les personnes qui sont déjà sensibilisées, qui du coup ont déjà les bonnes attitudes. C'est vrai qu'en faire un bel outil de pédagogie auprès des gens qui ne seraient pas naturellement allés voir ce film-là, je pense que c'est vachement important, notamment chez les plus jeunes pour qu'ils se rendent compte déjà de ce que c'est qu'être une femme. Notamment à travers l'anecdote que tu décrivais tout à l'heure, qui est malheureusement trop
banale.
Exactement. Et d'ailleurs, l'un des premiers réflexes des femmes qui génèrent ce genre de remarques, c'est pourtant j'étais habillée normalement, mais peu importe. Non, moi je voulais vous parler d'Alice Guy. Alice Guy, celle que tout le monde a oubliée et qui pourtant est une des pionnières du cinéma et d'une française. Elle est née en 1873 à Saint-Mandé. Elle est d'ailleurs adultérine. Et son enfance va se passer au Chili où son père, propriétaire d'une chaîne de librairie, va faire faillite. Ensuite, elle va étudier la sténographie et puis va être engagée à 21 ans comme secrétaire direction au comptoir général de la photographie à Paris, qui va être racheté un petit peu de temps après par un employé plein d'avenir qui s'appelle Léon Gaumont. Il va fonder la compagnie Léon Gaumont et compagnie. Alors, elle est passionnée de photos. Et du coup, elle va s'y initier, elle va apprendre pas mal de procédés de développement, l'utilisation de matériel, les techniques de trucage. Et comme Léon Gaumont, pour présenter son matériel, se cantonne aux vues de paysage, Alice Guy, elle va arriver à le convaincre de présenter autre chose, notamment des vues comiques dans l'esprit de l'arroseur arrosé. Elle est alors autorisée à filmer, à la condition exclusive que ce soit en dehors des heures de travail. En 1896, à 23 ans, elle va réaliser ce qu'on considère comme la première fiction au monde. Et ça, malheureusement, on l'a effacé, je vous l'expliquerai après, et complètement effacé des histoires du cinéma. Ça s'appelle La Fée aux Choux, pardon. C'est un film d'une minute où l'on voit une jeune femme évoluant dans un champ planté de choux énorme où elle extirpe des bébés. D'ailleurs, petite parenthèse, vous pouvez voir quelques-uns de ses films sur YouTube. Je vous explique après ce qui va lui arriver parce que sa vie est quand même assez incroyable. Gaumont va alors être bluffé et lui confier les vues animées de fiction. Scénario, casting, décor, costume, lumière, prise de vue, elle fait tout, elle supervise toutes les étapes de la création, elle perfectionne même les trucages, colorise les images, s'entourant de collaborateurs talentueux, dont Louis Feuillade, dont plus tard on attribuera certains de ses films à Louis Feuillade et pas à elle. En 1902, elle va avoir recours au chronophone Demeny, qui enregistre la voix sur un cylindre, qui va être baptisé le Photocène. C'est le résultat de l'association d'images animées et de phonographes. Fait d'Alice Guy, une pionnière du cinéma parlant, en fait. C'est l'une des premières à avoir utilisé et lancé ce dispositif. Elle va d'ailleurs, à cette occasion-là, être la première cinéaste à réaliser un making-of. Alice Guy tourne une Photocène. Et après, pour cette émission, en 1905, moi j'avais noté le court-métrage « Madame a des envies », qui dure moins de 5 minutes et qui met en scène une femme enceinte qui succombe à ses envies liées à la grossesse. On la voit en plan large voler des choses qu'elle a envie d'avaler. Et pour la première fois au cinéma, Alice Guy filme en gros plan son héroïne qui ingère des objets dans sa bouche. Voilà. Vous pouvez le trouver sur YouTube, il est très très drôle ce petit court-métrage. Et c'est vraiment le premier film, en tout cas pour moi, un des premiers films féministes où on va se centrer sur le désir féminin au cinéma, puisqu'il était déjà pas beaucoup présent.
Et sur une forme de prise de pouvoir aussi, dans un sens.
Mais c'est oui, parce qu'en fait, elle parcourt comme ça un parc poursuivi par son pauvre mari, et elle va comme ça...
Elle est indépendante déjà.
Complètement, déjà enceinte, et elle vole des choses qu'elle mange, par pur plaisir et par envie. En 1906, elle va tourner son premier long métrage, attention, La vie de Jésus-Christ, 35 minutes, 25 tableaux, 300 figurants, 600 mètres de pellicule. C'est le premier péplum de l'histoire du cinéma. Alors, c'est une des rares femmes à s'être un petit peu imposée dans l'histoire dans le milieu masculin. Alice imagine alors une histoire où les rôles des hommes et des femmes sont inversés. C'est les résultats du féminisme. On y voit des hommes changer les couches de leur bébé, pousser des landeaux, tricoter ou coudre à la machine, tandis que les femmes paraissent en lisant le journal, en buvant l'apéro ou en houspillant les hommes. Ça, c'est en 1906 quand même. Et elle n'a pas fini. Elle n'a pas fini de vous étonner, de nous étonner. En 1907, elle part aux États-Unis en compagnie de son mari, Léon Blanchet, un jeune opérateur qu'elle vient d'épouser. Donc au départ, ils étaient censés aller faire la promo du Photocène. Et finalement, du chronophone. Et ça n'a pas trop marché. Alors elle va créer sa compagnie de films, la Solax Film, la plus importante société de prod des États-Unis avant l'essor d'Hollywood. Succès rapide, Alice fait construire des studios de plus en plus grands. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, elle va tourner pas moins de... écrire, diriger et produire plus de 350 films. Alors elle va du mélodrame, western, film, guerre de sécession, mais aussi des films qui traitent de problèmes sociétaux comme The Lure, un film sur la traite des blanches, et A Fool and His Money, le premier film joué par des vrais acteurs noirs afro-américains. Après la guerre, et là ça se gâte, et c'est le début de la fin pour elle, le cinéma va migrer sur la côte ouest, Alice, en grande difficulté financière, doit fermer la Solax et se met au service d'autres compagnies. Son mari, à l'origine de sa faillite évidemment, la quitte alors pour une jeune actrice qu'il suit à Hollywood. Divorcée, ruinée, elle rentre en 1922 en France avec ses deux enfants. Commence alors une période très très compliquée qui s'étira jusqu'à la fin de sa vie en 68. Sombre car Alice Guy avec ses deux enfants ne parvient pas à trouver de travail, on ne l'a pas seulement oublié, alors que paraissent les premières histoires du cinéma, son œuvre est complètement effacée ou attribuée à d'autres, donc notamment à Louis Feuillade. Mais Gaumont, même Gaumont dans ses mémoires, l'oublie complètement. D'ailleurs, il lui promet après de réécrire ses mémoires, et c'était prévu dans les brouillons qu'il parle d'elle, mais voilà, il va mourir avant de les terminer.
C'est quand même dommage.
C'est terrible en fait. Donc elle comprend que le cinéma lui est désormais fermé, elle va faire une grosse bataille pour se faire entendre quand même. Elle va corriger les premières histoires du cinéma qui paraissent, tenter de récupérer ses œuvres perdues, oubliées, éparpillées chez les collectionneurs. En fait, il y a très très peu de films d'Alice Guy qui vont arriver jusqu'à nous. Pourtant, elle en a tourné beaucoup. En désespoir de cause, elle écrit ses souvenirs. Aucun éditeur n'en veut. Voilà, c'est terrible.
C'est fou.
Non, mais c'est vrai. Hein. Et le film sortira même... Enfin, le film, non. Le livre sortira en 76, après sa mort. S'appelle l'autobiographie d'une pionnière du cinéma, et il était préfacé par qui il est préfacé? Nicole Lise Lenem, qui écrit: si j'étais née en 1873, si j'avais travaillé chez Gaumont pendant 11 ans, si j'avais été la seule femme metteur en scène du monde entier pendant 17 ans, qui serais-je? Je serais connue, je serais célèbre, je serais fêtée, je serais reconnue. Qui suis-je? Méliès, Lumière, Gaumont? Non, je suis une femme. Voilà, donc
très beau.
Très très voilà, très très touchant destin. D'ailleurs, pour finir, il y a un documentaire qui a été tourné l'année dernière aux États-Unis qui s'appelle Be Natural, The Untold Story of Alice Guy Blaché. Un documentaire signé Pamela Green qui revient donc sur la vie incroyable d'Alice Guy Blaché. Et il a trouvé pour l'heure aucun distributeur en France. Alors qu'il est distribué en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Suède, en Lituanie, en Espagne. Voilà, pas de possibilité pour nous Français d'avoir accès à l'œuvre d'Alice Guy autrement que de façon très très parcellaire sur YouTube. Il existe un documentaire d'ailleurs sur YouTube si vous voulez vous documenter, j'espère. C'est un documentaire qui s'appelle Dans le jardin oublié, la vie et l'œuvre d'Alice Guy Blaché, qui date de 95. Sinon, il y a quelques courts-métrages qui existent chez Lobster en DVD, et sinon sur YouTube vous pouvez en voir quelques-uns. Voilà. Et depuis 2 ans, il y a le prix Alice Guy, on en a parlé tout à l'heure. Et voilà, moi j'ignorais juste son existence jusqu'à il y a peu de temps, où un ami m'en a parlé et j'ai découvert ça comme ça.
Moi je connaissais de nom, mais sans jamais m'être penché aussi précisément que tu l'as fait là sur.
Ah ouais, c'est
sur
incroyable,
sa carrière, hein, c'est dingue quoi.
Terrible, terrible, ouais. Terrible.
Mais c'est pour dire à quel point il y a eu des changements quand même depuis, parce que là on parle de. Il y a quoi, il y a 70 ans maintenant, les débuts de sa carrière, à peu près,
même
quasiment une centaine d'années, oui. Et au final, bon, maintenant, malheureusement, ça se passe encore, ce genre de choses, quoi. Mais ça devient de plus en plus moindre, on va espérer que ça continue. Mais c'est
à l'image
c'est
de la bagarre que doivent mener les femmes, un, pour exister en tant que réalisatrice, et deux, pour imposer un regard un peu plus différent que celui qu'on a actuellement dans le cinéma, le male gaze et le female gaze, enfin bref, c'est... Et des débats qui agitent. C'est bien qu'il y ait ces débats-là, Romain. Mais considérer, représenter la femme autrement comme un objet dans un film.
C'est ça. Ou autrement comme un objet où on peut s'approprier ce qui lui appartient, finalement. C'est aussi ça, quoi.
L'objet de désir. L'histoire appartenant à ceux qui l'écrivent, étant donné qu'elle est dans le cinéma beaucoup écrite par des messieurs, ils ont. Voilà.
Pas que dans l'histoire, pas que dans l'histoire du cinéma d'ailleurs, parce que si on va revenir sur l'histoire de tout court, c'est le même problème. Même par exemple pour un sujet comme la chasse aux sorcières, qui pour le coup là on est sur le 16e, 17e siècle, là on est pareil sur des choses qui n'étaient pas encore vraiment creusées jusqu'à il y a peu de temps, quoi.
Voilà, donc parlez autour de vous des réalisatrices.
Et on va passer une chanson d'une grande chanteuse, moi, que j'adore, que j'ai eu la chance de voir en concert.
Oui, on va juste vous passer un... Non,
non on pas celle-là.
On
aurait pu, mais on s'est dit qu'on allait faire...
Parce qu'évidemment, je l'ai vu en concert aussi, donc ça
aurait pu. D'accord, ouais. Carrément. Non, du coup, là, on va juste vous passer une chanson de Anne Sylvestre, donc, qui s'appelle « La faute à Ève », une petite... analyse du mythe de la pomme et d'Ève et d'Adam, voilà, juste une analyse
son
purement,
répertoire voilà, Anne neutre. Sylvestre, il y a cette chanson, mais il y en a tellement d'autres qui traitent aussi de ce sujet-là. Voilà. Grande, grande dame de la chanson française.
Ouais.
Excellent choix. La faute à Eve d'Anne Sylvestre.
D'abord, elle a goûté la pomme, même que c'était pas très bon. Il n'y avait rien d'autre, alors en somme, elle a eu raison. Eh bien non, ça l'a pourtant arrangé l'homme, c'était pas lui qui l'avait fait. N'empêche, il l'a bouffé la pomme, jusqu'au trognon et vite fait. Oui, mais c'est la faute à Ève, il n'a rien fait lui Adam. Il a pas dit femme je crève, rien à se mettre sous la dent. D'ailleurs c'était pas terrible, même pas assaisonné. C'est bien écrit dans la Bible, Adam il est mal tombé. Après ça quand Dieu en colère leur dit avec des hurlements, manque une pomme à l'inventeur qui l'a volée, c'est toi Adam. S'avance à fanfaronne et dit mais non papa c'est moi. Mais d'ailleurs elle était pas bonne, faudra laisser mûrir je crois. Alors c'est la faute à Ève s'il les a chassés d'en haut. Et puis Adam a pris la crève, il avait rien sur le dos. Ève a dit attends je cueille des fleurs, c'était trop petit, fallait une grande feuille pour lui cacher le zizi. Après ça, quelle triste affaire, Dieu leur a dit, faut travailler. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Ève leur a dit, j'ai trouvé. Elle s'arrange à la salope pour faire et porter les enfants. Lui poursuivait les antilopes et les lapins pendant ce temps. C'est vraiment la faute à Ève, si Adam rentrait crevé. Elle avait une vie de rêve, elle s'occupait des bébés. Défrichait un peu la terre, semait quelques grains de blé, pétrissait bols et soupières, faisait rien de la journée. Pour les enfants, ça se complique, au premier fils, il est content. Mais quand le deuxième rapplique, il devient un peu impatient. Le temps passe, Adam fait la gueule, il s'aperçoit que sa nana va se retrouver toute seule, avec trois bonhommes à la fois. Là c'est bien la faute à Ève, elle n'a fait que des garçons. Et le pauvre Adam qui rêve de changer un peu d'horizon, lui faudra encore attendre de devenir grand-papa, pour tâter de la chair tendre, si même il va jusque-là. En plus pour faire bonne mesure, elle nous a collé un péché, qu'on se repasse et puis qui dure. Elle a vraiment tout fait rater. Nous les filles, on est dégueulasses, pareil que ça nous est naturel. Et les garçons, comme ça passe par chez nous, ça devient pareil. Mais si c'est la faute à Ève, comme le bon Dieu l'a dit, moi je vais me mettre en grève, j'irai pas au paradis. Non mais qu'est-ce qu'ils s'imaginent, j'irai en enfer tout droit. Le bon Dieu est misogyne, mais le diable il ne l'est pas. Ah.
C'était la faute à Ève, Radio Campus Tour, hein, Susan.
Oui, tout à fait, effectivement. C'était la faute à Ève de Anne Sylvestre, voilà.
Voilà, et ben, je vais vous parler assez rapidement d'une femme qui s'appelle Carole Rousseau-Poulos, qui est née en 1945 et qui est décédée il y a une dizaine d'années maintenant, en 2009. Alors, c'était plutôt une vidéaste. Pour faire court, donc elle est suisse, Carole Rousseau-Poulos, elle était suisse. Elle a fait des études de lettres et puis assez rapidement, elle a été embauchée à Vogue à Paris. Elle a suivi son mari, elle a débarqué voilà, à Paris en 67. Et elle s'est fait, ça s'est pas très bien passé, du coup, elle se fait licencier par Vogue, et avec ses indemnités de licenciement, elle va acheter une caméra vidéo. Ça va être grâce à un ami de son mari, Jean Genet. Elle va avoir du coup une pote à parc. Du coup, c'est vraiment les premières. C'est la première femme à l'avoir, et il y a Godard en même temps. Voilà, c'est les deux premières personnes en France à avoir. Ça coûtait cher, c'était assez lourd. Et c'était, ils avaient un magnétophone avec. Enfin voilà, ils pouvaient tout capter. Et la vidéo, elle va s'en servir vraiment comme une arme. arme, comme un stylo pour défendre les sans-voix, pour capter vraiment la parole et garder trace de plein de luttes de l'époque. Son premier film, du coup, ça s'appelle « Je n'ai parle » d'Angela Davis. C'est donc sa première vidéo à être tournée en France. C'est un peu un contre-tournage d'émission. En fait, Angela Davis était une amie aussi de Jean Genet. Jean Genet devait prendre la parole pour soutenir du coup Angela Davis. Ils n'avaient pas trop confiance dans l'ORTF de l'époque. Ils faisaient bien parce que en fait, l'interview de Jean Genet a été censurée par l'ORTF et eux avaient les vrais rushs du coup de l'interview, donc ils ont pu montrer du coup la vraie interview. Mais à partir de ce postulat-là, tous les luttes des années 70 vont passer sous son œil, à la fois la lutte des Palestiniens, la lutte homosexuelle aussi avec le phare, la lutte pour l'avortement. C'est une des, par exemple, dans un de ses films, elle filme un avortement curatage du coup en plan vraiment, enfin on voit tout dans le film pour montrer l'importance voilà de la lutte pour l'avortement, de montrer que ça a du sens et que c'est important que la loi Veil passe. Elle n'était pas encore passée à l'époque. C'était le film là, il date de 73 et c'est en 75 que la loi Veil passera. On voit l'importance de tout ça, de l'image pour la prise de conscience, et c'était ça qui était important, c'est qu'il n'y a pas de manipulation dans son film. On parlait tout à l'heure de l'importance de la parole. Bah, elle, voilà, elle voulait vraiment donner la parole aux sans-voix, et elle disait d'ailleurs qu'elle préférait du coup des vidéos au cinéma, parce que elle avait cette phrase, je l'ai notée. Mais en cinéma, on leur dit, vous avez 10 minutes pour parler, et ils n'ont jamais la possibilité de répondre ou de participer au montage ou de refaire une scène s'ils se sont trompés. C'est bloquant, et si c'est pas des professionnels de la parole. Donc là, elle voulait vraiment laisser sur le long cours la parole, notamment aux sans-voix. Autre exemple, elle en a fait plein, hein, des films militants, mais un exemple parmi d'autres que j'avais découvert vraiment, en fait, cette cinéaste, je l'ai découvert en cours de cinéma à la fac, et si j'avais pas eu une prof, en fait, qui m'avait fait découvrir son travail, bah, peut-être que je l'aurais jamais découvert. Et ça s'appelle Mazo et Miso vont en bateau, ça date de 76. Donc Bernard Pivot avait fait inviter en fait des antiféministes sur, alors je sais plus le titre de l'émission, mais il avait invité des antiféministes avec Françoise Giroud, qui était journaliste à l'époque, pour leur répondre. Et en fait, elle va, enfin voilà, c'est vraiment misogyne et tout quand on voit l'émission, et elle va rien dire en fait pour contredire en fait les hommes. Elle les laisse parler, voilà. Complaire dans leur attitude. Et en fait, ils vont donc Carole Roussopoulos avec du coup, à l'époque, elle était aussi avec Delphine Seyrig notamment, et ils vont en fait détourner cette émission et répondre à tous les arguments de l'émission. Donc en fait, c'est une autre émission dans l'émission Mazo et Miso vont en bateau. Je pense que ça doit être disponible sur YouTube. En tout cas, c'est il y a plein de vidéos qui sont disponibles sur les réseaux. Et ça sera diffusé d'ailleurs au cinéma à l'Entrepôt, qu'elle va diriger à la fin de sa vie, en fait, le cinéma à Paris, l'Entrepôt. Donc voilà, il y a plein d'autres films. Elle a aussi filmé les mouvements ouvriers dans les années 70, l'usine LIP notamment. Voilà, elle était vraiment caméra à l'épaule, et elle filme aussi bien les heurts avec les forces de l'ordre, le rôle des femmes aussi dans la lutte, dans cette lutte-là, parce que l'usine LIP, notamment à Besançon, voilà, elle a signé notamment un film qui s'appelle LIP Monique en 73. Enfin voilà, elle a filmé beaucoup les femmes, la parole des femmes. Et je terminerai par cette phrase-là que j'adore, de Carole Roussopoulos, qui dit « Les vidéos montrent les yeux qui brillent encore aujourd'hui, 30 ans après, le rôle des images dans la transmission est donc décisif, elles permettent de casser les clichés. » Donc moi, voilà, je vous conseille de découvrir son travail. Il y a des livres aussi qui existent autour de son travail, et il y avait un très beau doc qui était sorti l'année dernière sur Arte, peut-être qui est encore disponible, qui était sur la relation qu'elle avait avec Delphine Seyrig, parce que pareil avec Brigitte Fontaine, ils montraient leurs vidéos sur les marchés. Enfin, il y avait tout un travail de diffusion et de leurs vidéos. Donc voilà, c'était Carole Roussopoulos. Un travail que, ouais, je vous conseille de découvrir si vous avez le temps.
Encore une grande dame méconnue.
Ouais. Enfin, merci à Hélène Fulkinger. Voilà, c'était ma prof de cinéma documentaire à la fac qui m'a fait découvrir son travail. Et ben on va finir peut-être sur Iris Bray, Jean-Pierre.
Oui, tout à fait. Je vous en ai parlé au début de l'émission. On parlera pas d'Agnès Varda, ça me rend triste.
Mais bon, peut-être un tout petit mot pour dire au moins les projections des films d'Agnès Varda.
D'accord. Donc Iris Bray, qui est une docteure en études cinématographiques et en littérature de l'Université de New York, et qui enseigne le cinéma sur le campus français de l'Université de Californie, spécialiste de la question du genre et de ses représentations. Elle avait écrit un livre il y a un an à peu près qui s'appelle « Sexe, signe de série » sur la représentation de la femme dans les séries télé. C'était plutôt très très bien fait. Et là, elle réédite la performance avec un essai très très intéressant. Moi, j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié cet essai qui s'appelle « Le regard féminin, une révolution à l'écran » où elle va analyser en fait pas mal de choses dans le regard qu'on peut porter sur la femme au cinéma, notamment à travers des thématiques parfois assez dures, hein, puisqu'elle va aborder notamment sur certains passages comment est représenté le viol au cinéma, d'un point de vue féministe aussi, comment est représenté la jouissance. Elle va décrypter comme ça pas mal de films et s'interroger sur les regards que portent les réalisateurs féminins et masculins sur l'interprète et sur les messages que l'on veut faire passer. C'est hyper facile à lire, hein. Il y a pas, même si parfois elle aborde des concepts et fait référence à des sociologues un peu alambiqués, c'est vraiment très simple. Et moi, ça a radicalement changé ma façon de regarder les films, et notamment la représentation de la femme. Elle parle pas mal de Kechiche, notamment, et sur sa façon de filmer les femmes.
Ah bah là.
Ah oui, un vaste débat.
Vaste sujet.
Est-ce que son dernier film à Kechiche va sortir un jour en salle, suspense?
Est-ce que non, la partie mais... 3...
partie 2 déjà, la partie 2. Hein.
Oui, non, mais la partie 3, est-ce qu'elle va passer elle va à Cannes tournée, est-ce qu'elle va encore faire un scandale?
Il a tourné une partie 3 là déjà?
Non, mais c'est normalement au projet.
Ah, okay.
Parce qu'en fait, il y avait trois parties à son projet. Il y a là,
une heure de
plan
séquence sur un postérieur.
Voilà.
Non, non, mais c'est le point de départ du film, en fait, où elle va comparer la représentation d'une femme dans un film qui est My Love de Kechiche et Wonder Woman. Et c'est la différence, en fait, qui est... Qui, voilà. Et après, elle va aussi aller explorer d'autres films, comme le L de Verhoeven. Il y a plein de choses. Elle va s'attarder sur le travail de Jeanne Campion, Céline Sciamma, aussi Chantal Akerman. Voilà, il y a plein de belles choses. Plein de références aussi aux séries télé. Donc allez-y, et voilà, ça peut être très très éclairant, enfin c'est très éclairant.
C'est à quelle édition du coup le livre?
Ça sort chez l'Olivier, pour la modique somme de 12 euros, dans les... 16 euros, pardon, excusez-moi.
Ah.
16 euros, c'est un tout petit peu plus cher.
Qui dit mieux?
Dans toutes les... bah, malheureusement, le prix du livre est fixe, donc que ce soit dans les grandes chaînes ou dans les petites librairies, c'est sorti à l'Olivier, ouais, tout à fait. Iris Bray, B-R-E-Y, le regard féminin, une révolution à l'écran.
Merci, c'est super tout ça, toutes ces informations-là. Ben, on va finir l'émission en parlant du festival, on en a déjà parlé, du festival Boris Mandel qui aura lieu du 4 au 25 mars 2020 dans pas mal de salles de l'agglomération Tourangelle. Et il y aura un focus sur Agnès Varda, donc toutes les dates, donc il y a trois projections. Le mardi 10 mars à La Riche à 15h, c'est Visage Village qu'elle avait co-réalisé avec JR. Qui est un super film documentaire sur un road movie à travers la France.
La relation entre les deux là, qui est juste incroyable. Quoi.
Le jeudi 12 mars à 20h30 à Luynes, il y aura Jacques de Nantes. Pareil, un hommage du coup à son mari, à Jacques Demy. Et le mardi 17 mars à Langers, les plages d'Agnès, aussi magnifique hommage aussi au cinéma. Agnès Varda, elle est décédée il y a quasi un an, jour pour jour, là, elle avait 90 ans, grande dame du cinéma français, qui avant Jean-Luc Godard, François Truffaut, était la chef de file de la Nouvelle Vague, puisque en 1955, elle signe la Pointe Courte, qui sera vraiment le moteur de plein d'autres films après.
Et elle vient de la photo.
Et elle vient de la photo.
Elle a un regard un peu différent. Enfin.
Complètement. Elle a un regard magnifique. Et voilà, elle a réalisé aussi bien des documentaires, des fictions. Elle avait un œil pétillant sur plein de choses, Agnès Varda. Elle était toujours une enfant. Moi, je vous conseille aussi Sans toi ni loi avec Sandrine Bonner. Alors, il y a un film que je n'ai pas vu et qui je veux voir et qui peut correspondre aussi à cette thématique là qu'on parle depuis tout à l'heure. C'est L'une chantre et l'autre pas, avec Valérie Mérès, que je n'ai pas vu. C'était une amie de plein d'autres cinéastes aussi, mais elles n'étaient pas beaucoup de femmes dans la Nouvelle Vague. Hein. Il y a eu Nelly Kaplan, il y a eu elle, mais il n'y en a pas eu forcément tant que ça. Et elle a, à travers les années, elle est restée, c'est une des plus grandes cinéastes françaises
de l'histoire. Elle est restée un pilier, oui.
Oui, complètement. Et puis l'enfant, elle, toute sa vie, en fait, elle a créé jusqu'à limite jusqu'à sa mort, en fait, elle s'est jamais arrêtée avec son mari Jacques Demy. Voilà, c'était vraiment deux grands cinéastes. Et elle aimait, ce que j'aime bien aussi dans son parcours, c'est qu'elle aimait partager aussi ce qu'elle, c'était quelqu'un vraiment qui était dans la transmission, qui n'était pas campé sur sa personne. Elle était toujours la preuve avec Visage Village, avec JR. Oui. On est complètement là-dedans.
On voit leur
là-dedans.
Collaboration, ils voilà. s'engueulent. Enfin, c'est super. Hyper touchant. Elle est hyper touchante, elle s'intéresse vachement
ouais.
aux gens en plus.
Ouais, c'est ça. Ouais. Comme une enfant. Enfin, elle a son petit œil pétillant quand on voit ses films. Et puis c'était quelqu'un d'engagé aussi sur plein de choses. Bien la. Enfin, vraiment sur le monde. Enfin, il n'y avait pas un sujet qui l'attirait pas. Donc, il y a plein de choses sur Internet. Voilà, il y a plein d'interviews d'elle. Pour commencer, voilà, il y a trois films: Visage Village, Jacques de Nantes, Les Plages d'Agnès. Voilà, déjà, ça fait déjà trois films.
Peut-être rappeler les dates du festival Brice Mandel aussi.
Ouais, du 4 au 25 mars sur
la région.
Sur la région, il y a des dates aussi bien. La Riche, lui. Mmh. Ouais,
il y a des dates de concerts, de films, d'expositions, de performances. Allez chiner, voir s'il y a des choses qui vous intéressent.
Et beaucoup plus proche, on peut rappeler la soirée de samedi. Ouais. Petit rectificatif, c'est à partir de 18h30, la soirée court-métrage bien. Organisée par l'association Kaboom, avec une sélection des courts-métrages du festival de Clermont-Ferrand.
Et ce sera où du coup?
Au Puzzle Pub.
Et okay. Dernière info aussi, le autre festival autour des femmes, c'est Femmes en campagne à Neuville-au-Roi. Et donc ça commence même dès demain soir avec Julie et Julia, avec Meryl Streep. Du coup, il y aura la costumière du film qui sera là à 20h30 à Neuville-au-Roi. Et le vendredi 13 mars, il y a Papicha de Moudia Medour, voilà, qui repasse au cinéma avec un court-métrage aussi d'une réalisatrice locale qui sera là. Donc voilà. On vous a, je pense.
Et puis Woman qui sort le 4 mars, du coup. Donc allez-y, accompagner pour discuter de toutes ces grandes thématiques. Et n'hésitez pas surtout à creuser un peu là, le bref historique qu'on vous a tracé des femmes au cinéma. Il y en a beaucoup d'autres, des oubliées, et qui mériteraient qu'on les écoute et qu'on regarde un peu ce qu'elles ont pu produire. Donc allez creuser tout ça et vous trouverez sûrement des choses intéressantes.
Et on vous dit à la semaine prochaine en direct de Télème pour le festival Viva et Cinéma qui commence mercredi prochain. Ciao, tout de suite Reggae Story sur Radio Campus Tour.